Salut Anne B.
Bonjour Anne B.
Bonjour Anne.
C'est pas Anne B, c'est Anne B.
Bonsoir Anne B.
Bonjour Anne Bénédicte.
Bonsoir.
Bonjour, bonjour Anne B.
Bonjour Anne B.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à réentendre tous ces bonjours qui étaient autant de belles rencontres et de belles histoires ici en cette année 2021. Et pour nous faire passer le cap de 2022, je vous fais un petit épisode en forme de la foi best-of, bêtisier, avec tous mes fails et mes grands bonheurs que m'ont amené cette première année de podcast, qui est sans doute la plus belle aventure qui me soit arrivée cette année et peut-être même depuis plusieurs années. Alors sans plus attendre, je relance encore quelques petites impressions sonores et puis on va un peu parler de l'arrière-scène, des coulisses, voilà, des coulisses du podcast cette année pour vous partager un petit peu la petite histoire des épisodes.
1, 2.
Allez, 3, 2, 1, go. C'est
voilà.
Parti.
Voilà, youhou, on est parti.
C'est un grand plaisir que de t'accueillir.
Bah, c'est un grand plaisir d'être venu sur Paris.
T'as évité les bouchons ou...
Bon, ça c'était une private joke. Ça a été la galère totale. Mais on est content d'être arrivé au moins.
Je peux jouer live batterie, tu vois. Et ça sera, si tu voudras, un peu de guitare. On ne sait pas à quelle qualité tu vas recevoir ça parce que c'est seulement...
Oui, on verra.
Qui
et puis, ouais. D'accord. Ça marche. On va essayer plusieurs choses. Le but c'est de s'amuser et que ce soit sympa.
Avec beau soleil et beau temps, moi j'aime bien quand il fait un peu chaud, donc c'est parfait.
Pourquoi il y a tellement de bazar? Mais c'est parce que j'étais un peu pressée pour discuter avec Benjamin et j'ai explosé la valise.
Voilà, je suis aux Açores sur un bateau avec lequel on vient de traverser l'Atlantique depuis les Caraïbes.
C'est du podcast après tout, hein. C'est pas France Inter. J'aimerais bien, hein, c'est pas ça, mais... Encore ça. pas mal axé sur le ramassage des décès... Des... Sur le ramassage de déchets, aux autres. Pendant tout un temps, vous organisez. Tu fous pas de ma gueule. je prends mes questions. Ce serait quand même plus pratique avec les questions.
Alors, faut que je commence l'enregistrement là. Tac, tac,
ah, ça serait une bonne idée, ouais.
C'est parti.
Ah non, en même temps, hein.
Mince alors.
Ah ben oui.
Ah ouais, zut alors.
Oh, saboteur. Alors oui, le podcast, forcément, on essaie techniquement d'être au point, mais comme vous l'entendez, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu peux recommencer à partir du moment où tu nous expliques ce qu'est comment a commencé le projet ? Excuse-moi, j'ai suspendu l'enregistrement ici. Voilà, ça c'est les joies. Hein. Heureusement, c'est pas du direct.
T'as lancé l'enregistrement, c'est ça ? Alors moi, j'entends comme un petit bruit d'ordinateur qui travaille. Ça, c'est toi, ça ?
Oui, et je ne sais pas comment arrêter cette débilité.
On a d'abord été parti en Afrique australe, pardon.
Oui, c'était.
Oui, c'est passé un truc, c'est que j'ai fait tomber mes écouteurs dans mon café. Je pensais que ça n'allait pas marcher.
Extra ! On est bien ce matin, on est bien, on est tous les deux bien réveillés.
Ah ouais, non, je galère, moi.
Est-ce que maintenant ça tourne ? Oui, là ça tourne. Voilà, ça vous donne une petite idée des fails qu'on a. Et quand vous vous intéressez un peu au podcast, aux interviews, tout le monde vous dit vérifier que l'enregistrement est bien lancé parce que ça, c'est une erreur commune. On se dit c'est tellement gros, c'est incroyable. Les pros vous disent ça va vous arriver, c'est certain. Eh bien voilà, check, ça, c'est fait aussi. Alors, comme vous le savez sans doute, si vous suivez le podcast, le projet, c'est aussi d'aider la reforestation avec les dons Patreon que je reçois pour le podcast. Merci, merci à ceux qui soutiennent le projet ici de production de contenu qui reconnecte à la nature et qui derrière aussi finance à 50% des gains reçus. La reforestation. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette année, grâce au soutien de mes Patreons, on a pu planter 360 arbres. Donc pour une première année, je trouve que c'est vachement sympa. En tout cas, ça me motive à continuer. Voilà, outre les belles rencontres qui sont une raison suffisante en elles-mêmes pour continuer également. Alors, si on veut un peu revoir l'historique du podcast, j'avais commencé par Jean-Paul François et je le remercie énormément. Donc, c'est un ancien champion du monde d'apnée qui est toujours juge AIDA. Donc, il est là sur les records, notamment. Il était là sur trois des records de Guillaume Néry. Et donc, voilà, c'était un chouette épisode et il a été mon coach à moi aussi parce que s'il n'y avait pas eu Jean-Paul qui me poussait à lancer mon projet, je ne sais pas s'il aurait vu le jour. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, je lui avais fait la demande pour l'interview, il trouvait que le projet était super et donc oui, il m'a régulièrement relancé, encouragé à me lancer, donc voilà, c'est aussi grâce à lui si c'est advenu, donc ce premier épisode est très important pour moi et très très sympa. Et alors quand deux Belges commencent à parler ensemble, forcément ça parle chocolat, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus courant aux Philippines. Alors ils ont eu des coques, ça oui, en veux-tu, en voilà. Donc pendant le podcast, avant le traitement du son, on entend des chants de coques tout le temps. Et j'étais dégoûtée parce que dès qu'on a arrêté d'enregistrer, en fait tous les coques se sont tus, ce qui est exceptionnel là-bas. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode de Jean-Paul, petit rappel, pourquoi est-ce qu'il y a autant de coqs aux Philippines? C'est parce que les combats de coqs, c'est quelque chose de quasi sacré. Et donc, comme tout le monde veut avoir son champion, c'est blindé de coqs. Et ces coqs ne sont pas du tout comme dans les livres pour enfants, des coqs qui font cocorico le matin pour saluer le soleil. Mais c'est tout le temps. C'est même en plein milieu de la nuit noire, on ne sait pas pourquoi, ces coqs chantent tout le temps et il y en a partout. Donc c'est vrai que c'était difficile de les éviter pour l'enregistrement. Quand c'est le premier enregistrement qu'on fait, on est super stressé, on voudrait que la qualité sonore soit parfaite et donc j'ai maudit ces coques abondamment. Mais finalement, bon voilà, ça met une petite ambiance sonore et puis c'est la vraie ambiance de là-bas. Alors le pauvre Jean-Paul par contre, comme voilà, pour essayer d'avoir quand même le meilleur son possible, il a fermé toutes les fenêtres. Il n'a pas pu mettre le ventilateur puisque forcément ça faisait trop de bruit pour l'enregistrement. Il a même dû fermer sa porte d'entrée qu'il avait laissée entrouverte pour avoir quand même un petit peu d'air parce que c'est les voisins qui se sont mis au karaoké parce qu'en Asie, on adore le karaoké et il n'y a pas d'heure non plus. Donc, on s'était retrouvés avec aussi l'ambiance musicale des voisins qui chantent faux. Comme premier enregistrement, c'était un beau baptême du feu, mais c'est un excellent souvenir. Bon, ça, la qualité sonore est basse, mais donc ici, c'est en fait une petite interview qu'on s'était faite pour préparer la vraie interview. Et donc, à la base, on était quand même censé parler diététique et régime adapté à l'apnée. On a un peu dérapé. Alors, avertissement, oreilles françaises sensibles, s'abstenir, parce que là, Jean-Paul et moi, on va vous faire une super démonstration d'accent belge. Vous savez, quand on se lâche...
Voilà, donc ça permet de perdre pas mal de kilos, tu es toujours dans l'eau, tu brûles énormément de calories, les gens font attention à ce qu'ils mangent parce qu'on leur dit bah, attention, on va essayer d'arrêter les pizzas et les burgers, une fois de temps en temps c'est bon, mais essayer de manger un peu sainement parce que dans les cours que l'on donne, on a quand même une partie diététique, on apprend aux gens bah, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'ils doivent faire attention. Je ne dis pas que je suis pas diététicien, loin de là. J'ai quand même des bouquins de référence pour donner aux gens si ça les intéresse. Mais on leur donne déjà quelques petits conseils. Et je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Même si la personne n'est pas trop sportive, je peux garantir, OK, vous venez faire un stage d'apnée sur 2 semaines, je perds 3-4 kilos à tous les coups, quoi. Donc, ça marche. Je vois bien, moi, j'essaie de prendre du poids. Ça ne fonctionne pas. La fois passée, quand je suis rentré quelques semaines en Belgique, sur 2 mois, je suis resté en Belgique, j'ai pris 4 kilos. Oh, ne me montre pas ça. Démon. Je suis en rupture de stock ici. Je me montre que j'ai plus de chocolat.
Ça, c'est vraiment qu'il n'y a plus en Asie.
J'ai un ami qui devait venir en juin ou juillet, ben, c'est annulé. Et en général, quand il vient avec 2-3 kilos de chocolat. Un autre ami qui vient et qui ramène 1 kilo en plus. Donc, j'ai ma réserve de chocolat, puisque quand je viens en Belgique, j'achète tout mon chocolat et non, il n'y a plus.
C'est l'horreur. Ah non, c'est vrai, quand j'ai travaillé dans l'export en Afrique, à chaque fois qu'il y en a un qui partait, il devait tout le temps partir avec du chocolat. Quoi. C'était le premier truc en demande.
Mais ici, le chocolat, je dois faire attention parce que je range. Mais il disparaît comme par enchantement, donc Attention, je vais devoir acheter un coffre sous clé pour être sûr que je le distribue parcimonieusement. Quoi.
Ça ne m'étonne pas. Enfin, au point de vue diététique, le chocolat noir, ça passe très bien. Moi, je trouve. En tout cas, avant de faire du sport, je m'enfile souvent une barre de chocolat. Pour moi, ça marche très bien. Gardez vos barres énergétiques, moi, une bonne barre de chocolat.
Ce pourquoi Jean-Paul m'a le plus inspiré, c'est sans doute ce petit passage que il a sorti en préparation. Et ici, c'est le passage de préparation que je vais vous donner. Hein. J'essaie de vous donner des choses qui n'ont pas encore été publiées, mais qui est ressorti dans l'épisode. Donc sur comment on change sa vie, comment on vit ses rêves. Et j'avais trouvé ça très chouette. Et là, vous entendez en bruit de fond sa compagne, Dina, la jolie Dina, qui fait la cuisine. Donc voilà, c'est la qualité sonore d'une prépa. Mais par contre, c'est une belle pépite qui nous livre là.
C'est vrai que mon podcast, moi, j'aimerais bien faire en fait un petit peu de dire ce que tu entends. Enfin, si tu écoutes les nouvelles, c'est toujours une vision un peu désespérée de la vie de demain, de la vie d'adulte, de la vie. Et tu dis, allez, il y avait des gens qui ont fait plein d'autres choix de vie et il y a tout à fait moyen.
Quand tu as un rêve, bon, il faut se donner les moyens, il faut le suivre jusqu'au bout et ne jamais baisser les bras. Donc, c'est plein d'embûches, c'est plein de gens négatifs qui vont te mettre des bâtons dans les roues et te dire que c'est pas possible. Mais si tu arrives à aller au-delà et te concentrer sur ce que tu es capable de faire et t'entourer de bonnes personnes, je pense que tout est réalisable. Et surtout bien garder la tête sur les épaules et de ne pas arriver comme un conquérant dans un pays conquis, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, il faut toujours se remettre en question et faire preuve d'humilité, quel que soit l'endroit où tu te trouves.
La deuxième interview, c'était avec l'ONG Graines de Vie, qui est l'ONG que nous soutenons avec le podcast et qui a donc planté les 360 arbres avec les dons qu'on a fait cette année. Voilà, et donc son fondateur, en fait, j'aime beaucoup l'histoire. Cette ONG m'avait été recommandée pour de très bonnes raisons. J'aime bien l'histoire du fondateur et de la manière dont est née cette ONG. Parce que je trouve que voilà, on a toujours l'impression qu'il faut plein de conditions, plein de ceci, plein de cela. Lui, ça a été fort essai-erreur. Il n'était pas du tout dans la reforestation, il n'y connaissait rien. Mais il y avait juste la chose la plus importante dans tout ce que j'ai rencontré. Je pense que c'est vraiment la chose qui fait la différence entre les gens qui se mettent en action ou pas, quel que soit le type d'action qu'ils veulent entreprendre. C'est cette envie, une envie vraiment viscérale qui ne vous quitte pas et qui est bien plus importante, cette motivation, que toutes les qualifications. Voilà, et donc ici, il vous explique un peu l'origine.
Et quand j'ai grandi, j'ai voulu m'occuper d'environnement, mais comme j'avais fait des études de droit, que je suis devenu notaire, c'était un peu compliqué. Et dans ma vie de notaire, j'ai dû adapter pas mal mon temps de travail pour des raisons extérieures au notariat. Et j'avais donc naturellement dans mon temps de travail une partie que je pouvais consacrer à autre chose. Et donc j'ai décidé à un moment donné de consacrer cette partie que j'avais disponible pour une action que je voulais mener, et je me suis dit, je vais le faire au niveau de l'environnement. J'ai voulu aller rejoindre une autre ONG ou une association, et je n'ai pas trouvé dans toutes ces ONG la philosophie que j'avais envie, moi, de prôner et de défendre. Et donc, à un moment donné, j'étais à Bruxelles, dans les embouteillages, il pleuvait, et j'étais dans le quartier européen, il y avait un building qui était en train de se refaire, il y avait une grande, tu sais maintenant on cache les façades des buildings, il y avait un grand panneau, une grande photo sur le building pour cacher ce qu'il faisait, et c'était une photo de Gandhi, avec une petite bulle et une phrase, « You must be the change you want to see in the world ». Si tu veux, si tu veux faire bouger les choses, t'as qu'à te bouger toi-même, voilà. Et bon, je l'ai pris un peu comme un coup dans la figure, et je me suis dit, voilà, je vais lancer moi-même mon ONG, ma philosophie, et puis on verra bien ce que ça donnera.
Voilà, pour la troisième interview, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu obtenir une interview de Ben Lecomte. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'ils me disent oui, parce que je n'avais pas encore de présence en ligne, je n'avais pas encore fait mon site web, j'avais juste mon projet en tête, les premières interviews étaient enregistrées, les deux premières, mais lui, donc, c'était vraiment un exercice pour moi d'oser, un exercice de prospection plus qu'autre chose, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il accepte, mais voilà. Ben Lecomte, qui avait traversé, donc le premier homme à avoir traversé l'Atlantique à la nage, qui venait de refaire 555 kilomètres dans le Pacifique à travers le vortex de plastique. Voilà, et je le trouvais excessivement inspirant. J'aimais beaucoup son message qui était par une nage plutôt que par un discours moralisateur ou autre, mais donc plutôt montré. Et voilà, sa démarche était tellement intéressante que je me suis dit, allez, je me risque. Et alors, lui a été aussi enthousiasmé par mon projet de replanter des arbres avec les oreilles. Et donc, il a voulu m'aider en m'offrant son temps. Et donc, on a pu parler longuement en préparation et puis faire l'interview. Et pour ça, je le remercie énormément. Ben, si tu écoutes, voilà, un grand, grand merci à toi. Vraiment, c'est un très, très beau souvenir du démarrage du podcast. Et c'est grâce à des gens comme toi que ce podcast existe. Et c'est ça, ça vous donne du carburant pour avancer quand c'est dur de voir toutes ces personnes qui vous disent « Vas-y, vas-y !» Alors ici, j'ai choisi pour vous un extrait qui m'avait marqué parce que, voilà, quand on voit des gens qui font des exploits extraordinaires comme ça, on se dit « Waouh !» Et en fait, comme ils sont humains comme nous, pas différents de nous du tout, eh bien voilà, c'est pas facile tous les jours. Et donc j'avais été fort marquée par le fait qu'il m'avait dit que sa première traversée de l'Atlantique avait été un vrai cauchemar, parce qu'il n'arrêtait pas de penser à l'objectif, donc dans sa tête ça se passait très mal. Et donc il n'avait pas vraiment profité de l'expérience, et donc qu'il avait tiré les leçons pour le Pacifique. Et que ça, c'est quelque chose que j'ai réentendu souvent, c'est qu'il faut apprendre à rester vraiment dans le moment présent. Quand on n'a que l'objectif en tête, il paraît parfois tellement grand, tellement inatteignable qu'on se décourage, tandis que quand on est vraiment dans le moment présent, ça aide énormément justement à atteindre ces grands objectifs. Et comment est-ce qu'on y reste? Parfois, il faut apprendre à s'occuper l'esprit, il faut apprendre à se lancer à l'eau, là c'est vraiment le cas de le dire pour Ben, et il faut aussi trouver des petits trucs, parce que notre cerveau a tendance à tourner en boucle et rarement avec du positif à nous proposer à digérer quand on est dans nos ruminations. Donc là, c'était un apprentissage de justement gérer ses ruminations et donc s'imposer un schéma de pensée pour la journée. Je vous remets ce petit passage de Ben entre les oreilles parce qu'il est très intéressant.
Dans l'expédition, oui, ça a été très pénible, très difficile tout le long d'un nage. C'était après totalement différent. Les nages que j'ai fait dans le Pacifique, j'avais une attitude carrément différente, j'avais changé un différent mindset. Ouais, j'ai eu beaucoup de difficultés mentalement.
Ouais. Et comment as-tu changé ton mindset alors?
En fait, ce que j'ai changé, c'est le fait, au lieu d'essayer de se fixer sur le but, de finir la nage, je me suis fixé sur tout ce qui se passait à la minute et de prendre le temps d'apprécier ce qui se passait à chaque moment de la journée, quoi. Et de vivre pleinement ce qui se passait devant moi, ce que je découvrais.
Ah, c'est marrant, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Ceux qui sont en apnée, qui disent aussi penser juste à l'instant présent, ça aide beaucoup à aller loin. Même dans l'entrepreneuriat, on dit aussi « enjoy the journey ». Ouais, c'est chouette. Tous les jours, se mettre à l'eau comme ça, c'est pas nécessairement évident. Enfin, on se demande, tu dis toi-même, si je commence à trop réfléchir, je vais me demander ce que je fous ici.
Exactement. Exactement. Ouais. Et donc, j'avais un certain rituel, quoi, pour occuper l'esprit et pour mettre l'esprit dans la bonne lignée, quoi. Parce que c'est lorsque tu as l'esprit libre et tu commences à penser à d'autres choses que toutes les mauvaises questions vont venir. Qu'est-ce que je fais ici? Combien de temps ça va prendre? Et ça. Donc, j'avais un certain rituel tous les jours avant de me jeter à l'eau. Donc, lorsque je me préparais, je pensais à mon emploi du temps, je pensais au sujet que j'allais aborder pendant la nage. C'est un peu comme avoir un emploi du temps quand on est à l'école. On dit, la première heure, ça va être des maths, la deuxième heure, j'ai français. Et moi, donc, c'est la première heure, je vais penser à ce sujet-là. La deuxième heure, je vais revivre un moment que j'ai passé avec ma famille et essayer d'être très précis à la description des choses et d'impliquer tous les sens. C'est-à-dire que si j'allais essayer de revivre, un anniversaire, par exemple, je repensais où on était, si on est à l'extérieur, est-ce que je sentais le soleil sur ma peau, est-ce que ça faisait chaud, est-ce qu'il y avait différentes odeurs, il y avait des personnes qui étaient là, est-ce qu'il y avait un parfum particulier, qu'est-ce qui se passait? Et tu te rends compte que quand tu engages tous tes sens comme ça, tu vas dissocier ton esprit de ton corps. Ton corps va être en automate, à nager, et puis l'esprit va être revivre le moment, et tu as l'impression de revivre le moment et d'être avec tes proches pendant l'anniversaire. Et ce qui se passe pendant ces moments-là, c'est que tu compresses le temps. C'est comme quand tu passes un bon moment à regarder un film,
Et le film, après une heure et demie fini, tu dis, oh, c'est déjà fini. T'as pas, tu te rends pas compte du temps passé. Et c'est, se passe exactement la même chose. Et j'essaie d'avoir le même genre de principe lorsque je nage, avoir des sujets dans lesquels je vais être impliqué. Mon esprit va totalement accroché. Et je compresse le temps comme ça. Et donc, pour moi, c'est très important de savoir exactement les sujets que je vais aborder tout au long, parce qu'une fois qu'il y en a un que j'ai fini ou je veux passer à autre chose, je ne me pose pas de questions à me dire, tiens, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Non, je sais exactement quel sujet vient après l'autre.
Ouais.
Et une chose que je faisais aussi, c'est que lorsque je me trouvais sur le pont et prêt à aller dans l'eau, c'est comme une personne qui se trouve sur un plongeoir et c'est très haut et tu dis est-ce que j'y vais pas et personne hésite comme ça pour la moindre. Et moi je me disais j'allais en compte à rebours, je disais 5, 4, 3, 2, 1, go, et je savais qu'automatiquement lorsque j'arrivais à 1 j'allais sauter, peu importe ce qui se passait, 5, 3. Donc une fois que j'étais prêt je m'accrochais, je disais ok 5, 4, 3, 2, 1, go, donc j'avais pas de temps à penser à ce que je faisais, c'était automatique quoi.
Alors un podcast, c'est aussi plein de rencontres qu'on a faites et puis tout à coup, on y repense. Et pour Inka, ça avait été le cas. J'avais rencontré en fait sa maman pendant des vacances. Sa maman est hyper sportive. Bah oui, d'ailleurs, on en parle dans l'épisode. C'est vraiment ses parents qui faisaient aussi du ski alpinisme et qui l'ont entraînée depuis le plus jeune âge. Donc, qui l'ont mise sur les pistes avec eux, ou plutôt dans les hors-pistes avec eux, dès qu'elle a eu le pied assez grand pour entrer dans une chaussure de ski de rando. Et donc, c'est vrai que c'était très, très drôle parce que quand je parlais à Inka, moi, j'avais plutôt l'image de cette plage où il faisait bien chaud, où j'ai rencontré sa maman, où on faisait ensemble du yoga et du pilates sur la plage. Et en fait, ben voilà, elle, c'était plutôt évidemment les montagnes enneigées normalement qu'elle évoque dans l'esprit des gens qui la connaissent et qui la suivent dans le ski alpinisme. Donc voilà, c'était assez gag pour moi. Et puis voilà, donc je l'ai recontactée en fait via sa maman qui m'avait tellement parlé de sa fille dont elle est très fière à juste titre. Et voilà, la maman comme Inka sont hyper sympathiques. D'ailleurs, conclusion de l'histoire, c'est qu'à la fin du podcast, elle m'invitait à venir à Andorre et je l'ai prise au mot. Et donc on s'est retrouvés cet été avec les enfants et mon mari à faire des randos avec Inka et c'était juste génial. Donc voilà, ceux qui cherchent à faire de la rando en montagne tout niveau, qui n'hésitent pas à contacter Inka, c'est vraiment une guide formidable. Mais donc voilà, le podcast, ça peut aussi être des moments super sympas comme celui-ci.
Je dis à Sita qu'elle monte un moment comme ça, elle te dit bonjour.
Ça va, merci.
Attends, je vais te crier. Maman,
où j'avais ça, la nouvelle élite.
Ça va. Aïe, attends.
Ouais, ça va.
Ça va bien, toi.
Ça passe vite, le temps.
Oui, 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 oui. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Ta maman, oui, je ne sais pas, il y a des gens comme ça, tu les vois et tu dis, j'ai envie de parler avec cette personne-là.
Seulement une semaine hein, qu'on s'est régalé. Régime et tout, hein. ça fait drôle. Hein.
C'est chouette de se revoir parce que parfois tu te connais, tu te revois plus jamais.
En général, tu te
en général c'est vrai que.
Mais quand tu m'as envoyé les mails, tu sais que bon, je pensais que c'était très intéressant aussi pour Inka de qu'elle te connaisse.
Oui, c'est chouette. Et... comme ça, on se sera connus. C'est, ouais. C'est très chouette ton projet. C'est vrai, ça va marcher à coup sûr.
Je suis tellement encouragée parce que c'est vrai que pour l'instant c'est beaucoup de solitude pour le préparer.
Là, oui, mais bon, c'est toujours comme ça. Après, quand tu lances, tu te dis, ah, t'es content. Ouais. Et comme tu dis, comme tu fais de ton mieux maximum, c'est-à-dire que ça va marcher sûr. Et tu mets de la bonne énergie, quoi. Alors,
C'est très important.
C'est le plus important. La bonne énergie.
Merci à Sita et à Inka. C'est vrai que ça m'a donné un bon coup de boost aussi de pouvoir parler avec des gens qui croient au projet comme ça également. Alors, pour continuer avec Inka, je vous ai retrouvé un petit passage, encore une fois, de la préparation. Donc, forcément, la qualité sonore n'y est pas. Mais je trouvais ça tellement beau, ce qu'elle disait sur la nature et le fait de se promener dans ces montagnes, que je ne résiste pas à l'envie de vous mettre ce petit passage.
Et toi, ce qui te plaît le plus dans cette discipline, alors, c'est le contact avec la nature, l'effort physique, c'est...
Je pense que c'est un mix, mais surtout maintenant, après la compétition, ce qui me plaît le plus, c'est d'être dehors, quoi. Disons, d'être tranquille, tu sais, tranquille, genre d'être dans le calme de la montagne, je dirais. Tu sais, pas uniquement en contact, mais aller chercher des endroits un peu où tu te retrouves avec la montagne, tu sais, en communion avec la montagne plutôt. Où tu sens que tu es vraiment libre, quoi. Mm. Ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau du ski de rando aussi, c'est que tu peux aller, si, quand les conditions sont bonnes, tu peux vraiment choisir où tu veux aller en cours de route, quoi. Tu sais, c'est un peu... Tu peux choisir ton chemin. Et ça, j'aime. Que dans l'été, par exemple, il y a toujours des chemins qui sont plus marqués, tu as plus tendance à aller sur des chemins, tandis qu'en rando, il n'y a pas de chemins qui sont marqués. Et c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux aller, quoi.
Ça, je trouve ça très bon de parler de ça, parce que c'est oui. Marrant. Je pensais, je vais enregistrer bientôt avec un ancien champion oui. Du monde d'apnée, là. Hein.
Ah oui, oui, tu m'as dit. Oui,
ouais, c'est très chouette aussi. Et c'est quelqu'un que j'avais rencontré en voyage aussi.
Ah, tes voyages sont bien. C'est chouette, hein, parce qu'après tes voyages, tu t'es dit, on va prendre.
C'est mais bien. Ouais. Mais oui, c'est lui, c'était... En fait, on a habité 2 semaines en face de lui aux Philippines. Et donc, lui qui nous avait fait, qui a dit, mais vous savez qu'il y a un Belge en face de chez vous ? Il dit, bon, oui, il a une école d'apnée, il faut aller lui dire bonjour. Bah, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va aller lui dire bonjour.
Allez, salut.
Et puis, voilà, elle a dit, oui, c'est un ancien champion du monde d'apnée, il a son école d'apnée. Bon, bah, du coup, mon mari a fait une initiation à l'apnée. Et donc, oui, on a beaucoup parlé de ça et c'est vrai que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent et c'est aussi cette communion, cette impression de faire partie qui peut être très forte, très apaisant.
Dans un peu tous les sports, je pense, qui sont en contact avec la nature, c'est beaucoup ça. Et quand je faisais la compétition, moi, j'avais besoin de ça et j'arrivais pas toujours à le trouver parce que quand tu fais de la compétition, tu es dans un cadre très rigide au niveau des entraînements, tu sais. Parce que tu as lundi et tu dois faire ça. Mardi, tu dois faire ça. Et en général, les entraînements se font plus sur piste parce que c'est là où le terrain est plus, disons, homogène. Et pas tellement en montagne. Et à la fin aussi de la carrière de compétition, je me suis dit que ce qui me manquait beaucoup, c'était la partie montagne, que je faisais un sport super de montagne, mais que je n'avais pas le temps pour aller en montagne. Et c'est ce qui me faisait un peu de peine, quoi. Que je n'avais pas vraiment le temps de, disons, comment se dit de pouvoir faire mon sport vraiment. Tu sais, c'est très bizarre.
Tu fais ton sport à fond, mais tu ne fais pas ce que tu recherches dans ton sport.
Exactement, c'est ça exactement. Tu l'as dit parfaitement. Il rigole, mon copain.
Je ressens parfois la même chose. Pas avec le ski, mais avec d'autres choses. Et,
c'est
de la forêt. Et que mon mari préfère la ville. Et quand on habite en ville, ça me manque.
Elle te manquait.
Je suis jamais aussi heureuse que quand je suis toute seule dans la forêt, qu'il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Si je peux avoir fait parfois des promenades pendant tout le week-end dans la forêt, et puis la forêt peut me manquer quand même parce que je n'ai pas eu ce moment seul, calme, où tu es vraiment juste toi et la nature.
C'est ça. Et même avec le travail en tant que guide aussi, moi j'ai besoin d'y aller par mon compte après, ou le jour suivant, ou pendant la semaine, mais avoir mon moment avec la montagne, tu sais, c'est comme un moment privilégié. C'est chouette.
C'est bien ça. C'est
comme avec le truc de la forêt, tu dois sentir pareil. Voilà.
Voilà, alors vous l'aurez deviné, s'il y a bien une chose que je vous souhaite pour cette année 2022, c'est d'avoir des super moments en nature parce que ça ressource, ça nourrit. Il y a des études qui ont été faites hein, qui montrent que pour le cortisol, donc, qui est cette foutue hormone du stress qui nous fait vieillir plus vite, qui peut créer des maladies, eh bien, cela baisse vraiment significativement quand on fait des promenades en forêt. Bon, d'abord, marcher fait du bien, mais il y a aussi un gaz qui est émis par les arbres et qui fait que effectivement ça fait descendre notre cortisol. Donc vraiment l'ambiance de la forêt, il y a scientifiquement quelque chose qui se passe, quoi. C'est pas juste dans la tête. Déjà dans la tête ça fait beaucoup de bien, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a déjà d'ailleurs au Japon depuis bien longtemps le Shirinyoku, qui sont les bains de forêt qui sont organisés justement pour les vertus thérapeutiques avérées des promenades en forêt. Il y a aussi maintenant, je crois que c'est en Écosse, des médecins qui peuvent prescrire du temps en forêt, du temps en nature aux gens, parce que c'est vraiment... une médecine un peu plus naturelle, mais qui apporte des résultats. C'est scientifiquement prouvé. Donc voilà, s'il y a bien quelque chose que je vous souhaite cette année, c'est de vous retrouver en nature le plus souvent possible. Il y a d'ailleurs des personnes assez connues comme Tim Ferriss, pour ceux qui suivent un peu les personnes inspirantes des États-Unis, qui est quelqu'un qui conseillait aussi d'aller faire, par exemple, ses appels pro plutôt en marchant dans un parc que dans un bureau. Lui, il prévoyait de faire ça comme ça. Donc voilà, c'est hyper connu partout dans le monde. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, voilà, faites quelques promenades en nature supplémentaire ou du sport en nature cette année et vous m'en direz des nouvelles. L'épisode d'après, c'était avec Jean-François Lagros, que je connais depuis assez longtemps, en fait. C'était quelqu'un que j'avais rencontré à un festival nature, le festival d'Albert en France. Et ils présentaient à l'époque leur documentaire. Ils avaient fait un long voyage en famille avec leur fille à l'époque. Et puis après, ils ont continué avec deux, puis trois enfants à voyager comme ça, à crapahuter à travers le monde. Ils sont vétérinaires et ils s'est inséré dans plusieurs projets pour la préservation des espèces sauvages menacées. C'était des histoires juste fantastiques et je crois que c'est la première fois avec Jean-François et Isabelle que je me suis dit « J'ai vraiment envie de faire des interviews un jour. » J'ai même retrouvé un vieil email où j'ai dit « Ça y est, je sais ce que je veux faire des interviews et je vais m'y mettre. » Bon, depuis, il y a plus de 10 ans qui se sont passés, mais voilà, cette graine a fini par germer visiblement puisque me voilà. Et donc, c'était en toute logique que j'ai fait cette interview. Donc là, je vous ai ressorti un petit épisode inédit parce que c'est vrai que, bon, évidemment, je vous encourage à aller écouter les épisodes de Jean-François si ça n'a pas encore été fait, parce que ça, s'il y a bien quelqu'un qui est un baroudeur, c'est lui. Et voilà, c'était super intéressant. J'ai adoré faire les deux épisodes avec lui. Mais alors là, c'est un petit extrait de la préparation qui parle un peu de sa philosophie de vie, finalement, puisqu'il a consacré toute sa vie au voyage. Je trouvais ça inspirant de vous le mettre ici pour un début d'année.
Voilà, tout ça, c'est une vie de voyage et de mêlée d'histoires d'hommes et d'animaux. C'est une histoire d'hommes et d'animaux qui m'amène là, tu vois. C'est, parce que moi, c'est l'homme aussi qui m'intéresse là-dedans, comme quand on voyageait, que ce soit les Maasai ou que ce soit les gens qui travaillent auprès des animaux ou les gens qui vivent en symbiose. Voilà, moi c'est cela qui m'intéresse le plus. Quoi. Des tchouches, c'est la vraie vie. Tu es à la fois au bout de la chaîne de nos jours, mais qui est le début de la chaîne, en fait. Quoi, hein, voilà, tout ça.
Ouais, c'est ce que je te disais, c'est ce que je trouve sidérant, c'est la manière dont tu es complètement déconnecté de la nature. Et quand tu vois des gens qui vivent encore avec le cycle de la nature, le rythme des jours...
On est parti de là, et maintenant, le but ultime, c'est de retrouver ça comme si c'était l'ultime, alors que c'est le début de l'histoire, en fait. Voilà. Et on s'est tellement déconnecté que pour nous, maintenant, c'est la fin de l'histoire. C'est le but ultime, c'est de revenir de là où d'où on vient, quoi.
Ouais. Mais oui,
quoi, vraiment, comme quoi vraiment on a quelque part on a perdu la queue de l'histoire, quoi. On a perdu les petits cailloux du petit poussé, quoi. Hein.
Quelque part, on a envie de retrouver le jardin d'Éden et qu'on n'est jamais aussi bien que là quand on est
Bah, je peux te dire, je l'ai retrouvé chez les Tchouches.
Ouais, ouais.
Dans cette baie-là.
Ouais. Tu sais, pour moi, je me dis, si jamais il y a une vie après la mort, bah pour moi, le paradis, c'est de pouvoir qu'on se raconte tous nos vies, quoi. Parce que moi, j'adore tellement et ça. Et c'est là que je me suis dit.
Moi aussi, ça m'étonne toujours, la vie des gens. Ouais. On a chacun des histoires incroyables dans quelques domaines que ce soit, ou même quand c'est tout simple, des vies simples, mais qui recèlent toujours des choses incroyables, quoi.
Ah oui, moi je trouve que tous les gens passionnés sont passionnants. À partir du moment où quelqu'un aime ce qu'il fait, il peut te raconter, mais ça peut être un cordonnier, ça n'a aucune importance. Mais tu es parti, tu découvres un autre univers, tu vis une autre vie, et ça, je trouve ça formidable. Donc c'est vrai que j'ai pas trop de frustration de ne pas avoir vécu une vie aussi aventureuse. De toute façon, elle n'est pas finie, donc j'espère bien faire encore quelques chouettes aventures.
Ça va, tu as le temps. Hein. Toutes les meilleures, je suis sûr que tu me raconteras toi aussi ce que tu as fait, mais je suis sûr que tu as fait plein de trucs, et puis ne serait que c'est maintenant cette. C'est super de te lancer, de faire ça là maintenant. Là.
Oui. Et je dis voilà, tu vois, j'ai nagé dans ma tête dans le Pacifique avec Ben Lecomte. Maintenant, je vais me cacher et presque faire dans mon froc avec les braconniers quand ça commence à tourner au vinaigre en Afrique. Et puis vivre simplement de silence et de beauté dans une cabane en Sibérie. Enfin, je veux dire. Finalement, je me rends compte que le vivre à travers les autres, c'est très beau aussi. Et donc, le partager comme ça sur un podcast et espérer que ça va avoir le même effet sur des personnes, ben c'est chouette. Donc, merci d'accepter de partager tout ça.
Voilà, là, vous êtes vraiment dans l'intimité de mon projet, dans ce que j'aime profondément. Personne ne m'ennuie jamais quand il me raconte sa vie. J'adore écouter la vie des gens. Voilà. Et donc j'espère effectivement, vous voyez que c'est ma passion de les écouter et de vous le partager. Et j'espère vraiment que vous en profitez aussi. D'ailleurs au début, j'avoue que éditer du son, il faut savoir qu'en général, pour 5 minutes d'audio que vous entendez, il y a minimum une heure de travail. Donc ça prend beaucoup beaucoup de temps l'audio. Et au début je me disais, dès que je peux, je délègue ce truc-là. Et puis, en fait, je ne sais pas si je le ferai un jour parce que toutes ces voix, toutes ces personnes, tous ces messages, ça m'apporte tellement. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je ressouris, même si c'est la 15e fois que je passe sur ce passage, ou que je ris, ou que je réfléchis. Et en fait, pouvoir travailler aussi longuement tout ce qui a été dit, ça fait que ça rentre vraiment en moi, quoi. Donc, les épisodes, je les connais presque par cœur, et ça m'apporte vraiment au quotidien, en fait. Je repense souvent à des choses que telle ou telle personne m'a dites. Dans certaines situations, ça m'aide vraiment à prendre des décisions, je pense, les bonnes décisions. Et donc, c'est mon coaching à moi, quoi, d'écouter tout ce qu'on m'ont dit mes invités et de me l'ancrer aussi profondément. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aussi à l'écoute que vous en retirez la même chose. Mais en tout cas, moi, j'ai une gratitude énorme envers chacun de mes invités pour tout ce qu'il a apporté à moi, et j'espère à vous également, à toi qui écoutes. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la notoriété. Pour moi, les personnes plus connues, oui, ça aide sans doute à avoir peut-être quelques écoutes en plus, d'agrandir l'auditorat, ce qui est important pour moi, puisque ce que j'espère, c'est d'avoir suffisamment d'auditeurs un jour pour pouvoir attirer des sponsors qui ont du sens, et donc pouvoir, grâce à ça, refinancer encore plus la reforestation. Mais ce que j'espère surtout, c'est que ça vous apporte quelque chose. Donc oui, les grands noms, évidemment, ça aide, mais pour moi, il n'y a pas cette échelle-là. Je trouve que chaque personne, plus ou moins connue, est tout aussi intéressante, et j'espère que finalement, vous vous intéresserez autant à Odette Caffry, qui n'est pas très connue ici, mais qui a un feu à l'intérieur tout à fait formidable, qu'à des gens beaucoup plus connus qui sont passés par le podcast. Et j'espère pouvoir continuer à faire ce mix des deux, parce que les gens sont tout à fait... Enfin, je trouve que tout le monde est intéressant. Pour continuer, je vous propose un passage que j'ai adoré dans l'interview de Marie-Amélie Lennartz, qui est la première femme belge à avoir terminé la mini-transat. Quel est ton plus gros kiff pendant une course? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces souvenirs de mini-transat, par exemple?
Il y a des moments comme ça qui sont un peu... qui restent dans ma mémoire. C'est ces moments où, plutôt en général, au coucher de soleil ou au lever de soleil, il y a quand même un truc là avec ce soleil, où t'es à la barre et t'as quand même cette sensation de vitesse et de conduite du bateau dans les vagues et dans du vent assez fort et le bateau qui surfe et qui plane sur les vagues et tu vois soleil. Et puis en général, j'avais la bonne musique avec moi. Ça, c'est quand même des moments qui restent. Et je me souviens d'un moment aussi assez particulier. Je sors du bateau la nuit pour voir que tout va bien. Et puis là, je vois le ciel qui était juste incroyable. Enfin, il y avait des étoiles comme j'avais, un ciel étoilé comme j'avais jamais vu, tellement il y en avait beaucoup. Mm-hmm. Quand tu vois la Voie lactée, parfois quand tu vois la Voie lactée, ben, la Voie lactée puissance 10.
Oui.
Je pense que j'en ai même pleuré au moment tellement c'était beau. Je suis restée, du coup, je me suis couchée là dans le bateau, puis je suis restée là à regarder le ciel. Et ça, c'était un chouette moment aussi.
Oui.
Ouais, ça reste quand même les moments, je pense, où tu es seul face à ce spectacle de la nature. Là, c'est quand même, bah, tu te dis que tu es quand même assez privilégié, que première loge pour voir un truc assez exceptionnel. Du coup, je pense que tu ressens très fort cette connexion avec la nature, tu la vis. Ouais, tu la vis fort.
Ouais.
Ouais, ici, de nouveau, durant la transat que je viens de faire, on était trois. Et je pense que j'étais contente la nuit quand, si tu veux, on fonctionne par quart. Donc, un quart, c'est que tu dois être réveillée pendant que les autres dorment et être vigilante, regarder que tout se passe bien. Mmh, mmh. Bah, en fait, je pense que mes moments préférés, c'était quand j'étais de quart et que j'étais toute seule.
Oui, ouais, je peux comprendre.
Même si j'aime beaucoup prendre l'apéro avec les autres, faire tout ce qui, voilà, c'est très chouette aussi, mais, mmh. Être face à la nature toute seule, c'est quand même très chouette. Mais tu l'as aussi quand tu vas, je pense, te promener dans les montagnes tout seul.
Oui. Je suis aussi fan de promenade en solitaire, hein, en nature. Oui.
Voilà.
Mais ouais. Comme toi, pas l'apéro en solitaire. Il y en a, y a
oui, non, pour là, tout. L'apéro, c'est quand même sympa.
Je crois qu'il y a un mot que tu aimes, c'est audace. Qu'est-ce que ça évoque pour toi?
J'avais appelé mon projet Marin d'audace parce que je m'étais dit, j'ai envie de mettre en avant une valeur. Et finalement, j'ai choisi ça parce que c'est une valeur dans laquelle je crois beaucoup, parce que je pense qu'on doit pouvoir... je pense que la vraie réussite, en tout cas, ou le vrai bonheur, il vient quand on est vraiment aligné avec ce qu'on a envie de faire dans ses tripes. Et que pour pouvoir écouter ce qu'on a dans les tripes et puis surtout prendre des décisions pour suivre ses tripes, il faut un peu d'audace.
Mmh.
Et ça n'a pas toujours été mon cas, hein, donc je pense que voilà, ça demande un peu d'audace de dire « Ok, je me bouge un peu les fesses pour faire ce que je ressens vraiment au fond de moi. » Et puis j'avais choisi ça aussi parce qu'avant, je travaillais à ce moment-là, je travaillais pour une organisation qui s'appelle Ecores et qui accompagne des entreprises dans la mise en place de stratégies de développement durable, enfin des entreprises et des communes et des territoires. Et que je trouve aussi que quand t'es décideur politique ou d'une entreprise, tu dois aussi avoir de l'audace pour emmener tes équipes et emmener ton entreprise vers quelque chose de plus durable et d'aller parfois contre-courant de certaines choses. Voilà, ça demande aussi pas mal d'audace et j'ai l'impression que dans mon métier, c'est ça qu'on a amené aussi chez les gens qu'on accompagnait. Donc voilà, c'était un peu ça que ça a évoqué.
Alors si ça, c'est pas un super message de nouvel an pour prendre des bonnes décisions, voilà, soyez audacieux en 2022. Un autre super beau message, je trouve, c'était celui de Thomas Tirtio que je vais vous mettre entre les oreilles maintenant. Ce que j'aime beaucoup dans votre projet, c'est que vous voulez juste montrer qu'avoir une vie normale, citadine et faire une grande aventure par an, même quand on n'est ni sportif ni aventurier à la base, ça a la portée de tout le monde quand on s'en donne les moyens. C'est beau ça.
Bah, j'irais même plus loin, en fait, c'est n'importe quel projet qui nous anime. C'est-à-dire que nous, en fait, Valentin, Maxime et moi, ce qui nous a animés, c'était les expéditions. Mais tout le monde, en fait, peut avoir des projets en plus de sa vie citadine, quoi. Souvent, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des « ou » dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils disent, bah voilà, genre, c'est soit je fais mon boulot, ou je vais vivre ma passion, ou je vais vivre ce projet. Mais je peux pas faire les deux. Et en fait, ils se mettent des murs comme ça dans leur vie, sur leur propre projet, sur lequel ils n'arrivent pas à les passer parce qu'il y a ce « ou ». Alors oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en même temps, qui ne peuvent pas se réconcilier. Mais ce que je trouve génial, c'est quand on commence à mettre des « et » un peu dans sa vie, on se dit « ok, alors j'ai ce boulot de citadin, et bah, est-ce que je ne serais pas un tout petit peu, par exemple, dans le cas un peu aventurier ?» Et en fait, l'idée, c'est d'y aller petit à petit, avec les petits pas. C'est-à-dire qu'on commence, on dit « ok, bah, je vais commencer par faire un week-end par mois, je vais me faire une petite aventure. » Après, je vais dire « Ok, bah, je vais prendre une semaine de congé pour faire un projet peut-être un peu plus grand. » Et en fait, d'y aller petit à petit et peut-être au final, en fait, créer un mode de vie sur lequel on va avoir ce double équilibrage, mais il faut tenter les « et » quoi. Parce que souvent, je pense que les gens se mettent des « ou », soit je travaille, soit bah, je vive ma passion, qui sont d'élever des chevaux. Mais comme ils se disent, bah, c'est soit un « ou bah, », du coup, ils ne passent jamais le pas. Et oui, parce que le pas est immense à faire. Quoi. Mais en fait, il faut essayer de réfléchir, c'est quoi tous les petits pas avant sur lesquels je peux mettre des « et » et commencer à vivre les choses au quotidien. Quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est pousser les gens à l'action, de mettre des « et » dans leur vie, de se dire « ok, en fait, moi, qu'est-ce qui m'anime quoi ? Qu'est-ce qui me fait un peu vibrer le matin ? » Et pour ça, bah, c'est important de bien se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, bah c'est dur de savoir ce qu'on a envie vraiment. Hein, parce que parfois, on fait des choses parce que les autres ont envie qu'on les fasse. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Et du coup, de se connaître soi, de trouver ce qu'on a envie de faire et commencer en fait, petit à petit à le faire de plus en plus. Et ça se trouve, on se rend compte en fait, qu'on n'aime pas faire ça. Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître.
Oui,
et si ça se trouve, en fait, on va se dire, en fait, mais j'adore faire ça. Et là, ça va nous donner de l'énergie. Et là, on va commencer à rayonner, on va commencer à dégager de l'énergie, et les gens vont nous en donner. Ça devient un cercle vertueux. C'est ça que j'ai envie de pousser les gens à faire.
Voilà, ces paroles-là de Thomas, j'avoue que j'y pense souvent dans mon quotidien. Alors, on vous dit toujours que dans la vie, les premières fois, on les oublie jamais. Et bien, en tout cas, s'il y a bien une première fois que j'oublierai pas, c'est ma première interview en présentiel. C'était avec François Sarano. Alors ça, c'est une belle histoire de A à Z. Parce que j'avais acheté un magazine hors série du Vif l'Express sur les océans. Et la première interview, c'était celle justement de François Sarano. C'est comme ça que je l'ai découvert. Bon, alors, j'ai foncé sur les réseaux. J'ai trouvé l'adresse pour pouvoir écrire à Monsieur Sarano. Parce que sans avoir attendu la fin de l'article, j'avais été tellement enthousiasmée par ce que j'avais lu. Vous savez, parfois, vous lisez un truc et puis vous dites, bah tiens, c'est... C'est dingue, ça me parle tellement. Et bien voilà, là, il me parlait tellement, c'était tellement mon ressenti que je lisais dans ses mots, que je me suis dit, il faut que je l'interviewe, c'est pas possible autrement. Et donc, ben voilà, il a répondu oui, et puis après, en commençant à préparer l'interview, j'ai vu qui était vraiment François Sarano. J'ai été hyper impressionnée, d'ailleurs, je crois que ça s'entend dans l'interview, j'ai jamais parlé aussi vite de ma vie. Et je crois que j'ai arrêté de trembler 10 minutes après la fin de l'interview, qui a quand même fait 1h30. Alors j'étais hyper stressée, C'est quelqu'un de très gentil, mais c'est impressionnant, voilà, parce que, bon, pour plein de raisons, hein, il a fait partie de l'équipe Cousteau, c'est quelqu'un que je voyais passer sur TF1 ou sur des grandes chaînes, mais pas sur mon petit podcast, quoi, et voilà, donc je suis très heureuse de le remercier avec des écoutes, parce que c'est un épisode qui a été très écouté, et j'espère qu'il continuera à l'être, parce qu'il ne vieillira pas, c'est un merveilleux épisode. Mais alors, c'était toute une histoire, parce que, quand j'ai vu un peu qui il était, bah, j'arrivais plus à y croire qu'il accepterait d'être sur mon podcast. Et donc, jusqu'au bout, j'y ai pas cru. Donc, j'ai acheté mon matériel pour pouvoir enregistrer en présentiel pour lui. J'avais pas appris à le prendre en main parce que, bah, voilà, après, Aléa, Monsieur Sarano est quelqu'un qui est souvent sur un bateau. Donc, c'était pas de la mauvaise volonté, mais j'avais plus trop de nouvelles à la fin, avant l'interview. Et donc, comme moi, j'arrivais pas à y croire, je me dis, bon, bah, voilà, ça va pas se faire. Et bon, après, ben, nous, on était justement en Andorre chez Inca, quand j'ai reçu le SMS en disant « Bon, ben, pour demain, ça marche toujours, on se rend compte, telle heure, etc. » Et donc, le rendez-vous était là. J'avais vaguement prévu le coup en me disant « Si jamais, par miracle, cette interview se fait. » On avait un peu prévu ce qu'on pourrait faire, mais c'était un peu un plan catastrophe parce qu'il fallait quitter Andorre, déposer ma petite famille à Carcassonne, continuer sur Metz, du côté de Perpignan. C'était un peu folklore. Et surtout, j'avais pas pris mon matériel en main, donc j'avais pas appris à l'utiliser puisque je me suis dit je vais pas me pourrir les vacances à apprendre à utiliser ce matériel si l'interview ne se fait pas, donc voilà, je me tire pas de plan sur la comète, je profite des vacances, j'y pense pas trop. Et donc le soir, je me vois encore en train d'interviewer mon mari dans le jardin du bed and breakfast pour apprendre à utiliser ce matos. Et donc voilà, le lendemain, je suis arrivée, j'étais assez stressée. J'avais bien préparé l'interview, mais pas le matériel. Donc j'étais bien stressée. Et donc évidemment, il y a eu un souci technique. Il a fallu recommencer après 8 minutes. Donc voilà, tous les trucs qu'on vous dit quand vous allez faire des interviews, vous allez oublier d'appuyer sur démarrer. J'ai pas fait cette interview-là, mais je l'ai fait. Le coup de la carte SD qui est trop pleine, ben voilà, j'avais pas l'expérience, donc c'est ce que j'ai fait avec Monsieur Sarano. Donc après 8 minutes d'écoute, j'ai vu que le truc s'était arrêté, je comprenais pas pourquoi. Heureusement, j'avais tout en double, là. Je crois que j'étais équipée comme, un paracommando qui part en mission pour 15 jours, je ne sais pas combien de batteries de rechange, de piles, enfin tout ce qu'on vous dit de ne pas oublier. Mais alors la carte SD, cette carte qui n'était pas à moi, que je ne connaissais pas, voilà, elle n'était pas totalement vide, ça, je n'avais jamais pensé à le contrôler. Bref, j'étais morte de trouille pour arriver à cette interview, je l'ai été jusqu'au bout. Et après l'interview, je n'ai même pas voulu écouter si l'enregistrement était bon. Je me suis dit, je ne veux pas me pourrir les vacances. Donc, et voilà, mais sinon, quand j'ai réécouté ça, que j'ai vu que le son était bon, j'ai d'abord pleuré de soulagement, mais vraiment chialé de soulagement, parce que pour moi, c'était une interview. Je savais qu'elle avait été super belle. Enfin, moi, j'ai adoré écouter François Sarano et ce qu'il m'a dit.
Le changement, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il est altruiste. Mais il faut savoir pourquoi on est riche de cette idée de transmettre. Et qu'on est heureux de cette idée de transmettre. C'est ça. Et pour en être persuadé, je crois qu'il faut qu'au départ, chaque jour, et c'est ultra simple, en se levant, on prête attention à ce qui nous entoure. Bonjour. Bonjour, Anne Bénédicte. Bonjour, le pin parasol. Bonjour, les lauriers. Et quand je dis bonjour, je regarde, les yeux dans les yeux. Et je prête attention. Et tout d'un coup, vous existez, vous qui m'écoutez, je pense à vous, et vous existez, le laurier existe, le moineau qui vient de se poser existe, alors que sinon, rien n'existe. N'existe que ce à qui, ce CEUX, ce à quoi, ce CE, vous prêtez attention. Et tout d'un coup, vous découvrez que vous êtes riche de tous ceux à qui vous prêtez attention. Et que cette richesse ne prive personne et que vous pouvez l'offrir. Le matin avec Véronique, quand on se lève, on a la chance d'avoir des arbres autour de nous, on regarde sur les feuilles, les oiseaux, les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, quand le soleil brille dans les gouttes d'eau, c'est des diamants. C'est aussi beau qu'un diamant, un vrai de vrai. En plus, c'est éphémère. C'est fragile. Donc cette offrande est merveilleuse.
Et unique.
Et unique. Et unique. Et on ne prive personne de cette richesse. Au contraire, en la mettant en avant, on peut l'offrir. Dites bonjour, prêtez attention et le monde sera beau.
Mais on aura moins de besoins parce qu'on sera beaucoup plus rempli à l'intérieur.
Exactement.
Voilà, pour rejoindre quelqu'un que vous appréciez beaucoup, Pierre Rabhi.
Alors, oui, Pierre Rabhi. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par une approche très différente, lui, c'est un terrien, lui, c'est un paysan, lui, qui était d'abord un habitant du désert, hein, c'est quelqu'un qui vient de la terre, et il y a quelque chose qui nous réunit, c'est d'abord l'amour de la beauté auquel on prête attention. Hein. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et ensuite, de dire, cette beauté, elle m'a tellement apporté que je veux l'offrir à ceux que j'aime. Et le jour où vous dites ça, vous aimez le monde entier. C'est extraordinaire.
Ah, j'en suis persuadée aussi. Ouais.
Et puis, cette idée qu'elle vous permet une sobriété consentie.
Et heureuse,
pour reprendre Pierre. Mais consentie. C'est sûr que la sobriété qui est imposée, le manque, c'est insoutenable.
Oui.
Mais on peut tout savoir suffisamment. Et lorsque tout d'un coup, on complète ce suffisamment par cette attention à ce qui nous entoure, alors on est les plus riches. Parce qu'on peut l'offrir à tout le monde.
Oui. Ah là là, en plus, c'est tellement vrai ce qu'il dit. Moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est que, en fait... Les clés du changement, elles sont toutes simples. On les connaît bien. C'est des choses comme effectivement être présent, vraiment voir, ouvrir vraiment les yeux. Et bon, évidemment, ça faisait plaisir de réentendre ce passage où on parle de Pierre Rabhi qui nous a quittés ici fin 2021. Un grand monsieur lui aussi. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de sobriété heureuse parce que je pense qu'effectivement... moins de bien, ça fait du bien. Et c'est une des grandes solutions au challenge du changement climatique. Ça me fait penser aussi à Nicolas Blin de Reforest Action, que j'ai interviewé aussi,
et il me demandait de tous mes podcasts, qu'est-ce que je retenais, quelles étaient les choses qui revenaient souvent par rapport au changement, puisque c'est une des choses qui m'intéresse vraiment, c'est justement de voir tous ces gens qui ont l'air d'avoir un petit quelque chose en plus que les autres que j'interview, qui sont inspirants, qui font des choses incroyables. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus? En fait, ils sont pas plus beaux, plus intelligents, plus grands, tout ce qu'on veut, mais il y a bien deux valeurs par contre que je retrouve à chaque fois, c'est l'audace et la ténacité. Voilà, je disais, il faut être têtu comme une mule par rapport à ses objectifs et avoir quand même le courage qui va avec. Et donc, c'est vraiment la chose qui fait la différence entre les gens qui font de grands projets et ceux qui n'en font pas. C'est cette ténacité, cette rage d'y arriver, de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras. Et l'audace de se mettre en chemin, d'oser faire les premiers pas. Voilà, ça c'est la grande leçon que je retiens du podcast et de toutes ces interviews cette année. Donc une des grandes clés du changement, du fait de se mettre en route dans n'importe quel projet, c'est d'avoir une bonne raison de le faire. Et on va reprendre un dernier petit extrait de François Sarano, parce que ça aussi, ça m'est resté rivé au corps. C'est une des rares citations que j'ai retenues par cœur d'un invité, parce que c'était juste merveilleux ce qu'il disait sur l'océan et du pourquoi on change ou on ne change pas. Vous parliez du fait qu'on était beaucoup trop orienté description anatomique des poissons, des animaux, statistiques, etc. Et avec ça, on n'a encore absolument rien dit d'intéressant de l'animal.
Alors, vous qui m'écoutez, 360 millions de kilomètres carrés, c'est la surface approximative des océans, qui sont profonds en moyenne de 3,5 km. On tire 80 000, 85 millions de tonnes de poissons par an. Il y a 800 millions de tonnes de déchets. Est-ce que ça vous a dit une seule chose de l'océan ? Rien du tout, évidemment. Évidemment, les chiffres ne sont rien. D'ailleurs, on ne sait pas ce que veut dire million. Qu'est-ce que c'est million ? On entend, mais ça ne parle en rien. En deux mots, nous essayons d'enfermer dans des boîtes tellement étroites la réalité du monde que cette réalité est trahie. Aucun chiffre, aucune phrase, aucune statistique ne dira jamais l'élégance formidable d'une baleine à bosse qui danse. Mmh. 35 tonnes de légèreté et d'élégance avec ces nageoires immenses qui papillonnent comme des ailes d'oiseaux. Enfin bon, ça ne s'enferme pas dans des chiffres. Et bien c'est ça l'océan. C'est ça le vrai océan.
Et c'est grâce aussi à François Sarano qui n'arrêtait pas de me parler de son ami René Euzé que j'ai eu envie d'interviewer René Euzé. Oui, c'est amusant tout à l'heure d'ailleurs quand t'as dit que tu te concentrais surtout sur ta technique pour ne pas louper ton plan et que l'émotion, tu l'avais en différé.
Ah ben tout à fait, parce que si je me dis « Waouh, le plan, la baleine est belle et tout », c'est « J'ai raté mon plan ». Donc c'est vrai que je me concentre sur le côté technique. Mais pourquoi je le fais aussi, c'est pour que vous puissiez, en tant que téléspectateur ou spectateur, revivre cette émotion que j'ai eue.
Oui.
Parce que si j'ai bien filmé, j'ai bien même fixé ma caméra, j'ai bien fait mon point sur l'œil de la baleine, du cachalot ou de la tortue, donc ce regard-là, toi, à l'image, ma caméra devient un peu ton subjectif. Donc du coup, c'est toi qui prends un peu ma place. Et si tu captes l'émotion que j'ai eue, même en différé, c'est que j'ai gagné.
Oui, oui. Bon, t'as gagné.
Merci.
Et ça, c'est sans doute un de mes plus beaux souvenirs du podcast aussi de cette année. Mais je vous dis à chaque fois, je dis c'est un des plus beaux parce qu'il y en a plein. C'est un email que j'avais reçu un matin de René, justement. J'étais justement en petite crise, mini crise existentielle par rapport au podcast, en me disant c'est quand même beaucoup de boulot. Est-ce que c'est bien utile ce que je fais, etc. Bon, bref, le genre de questions qu'on se pose quand on lance un projet. Et en ouvrant ma boîte mail le matin, eh bien, j'avais reçu un envoi de René qu'il avait fait. Ben, lui, il était en Polynésie française, donc avec le décalage horaire, je l'ai reçu première heure le matin en me réveillant. C'est un envoi d'un email en me disant « Tiens, ben, je viens d'enregistrer des chants de baleines, est-ce que ça t'intéresse ?» Et donc, en annexe, j'avais un MP3 avec des chants de baleines fraîchement pêchés, que j'ai mis dans le podcast d'ailleurs, mais ça, c'est des choses en disant « Waouh, c'est quand même vachement plus agréable à recevoir qu'une réclamation client !» Et donc ça, c'est des jours où on adore faire ce qu'on fait. Merci René. Et puis, il y a aussi ces petites anecdotes qui font à moitié rire et qui font à moitié froid dans le dos, hein, que nous ramènent tous ces aventuriers, que ce soit dans des eaux chaudes hein, avec les requins ou ici des eaux froides avec une rencontre avec l'ours polaire.
Et au retour d'une plongée, ben, on est tombé sur cet ours polaire vraiment par hasard.
Qui te passe tout près de la caméra.
Ouais, parce qu'au début, quand il y a une petite anecdote là-dessus, je suis sorti de l'eau pour voir un peu comment ça allait se passer et tout. Et puis on était sur un bateau de pêcheurs islandais et puis le gars m'a dit quand tu as fini, tu me le dis, moi je le tue et comme ça je le vends. Alors tout de suite j'étais horrifié et j'ai dit non, il est hors de question que tu tues un ours pour un tournage et en plus moi me sentir coupable là-dessus, c'est je refusais. Et comme j'avais pas confiance au pêcheur, j'ai demandé à mon assistant, parce que dans les cas comme ça, comme c'était très dangereux, du fait que j'avais aucune expérience avec les ours polaires, j'ai dit écoute Jean-Christophe, tu prends le fusil et puis tu ne tires pas tant que tu vois pas du sang, parce que si tu verras du sang, ça sera forcément le mien, pas le sien. Alors j'ai dit tant que tu vois pas de sang, tu ne bouges pas, tu tires pas. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit René, je veux bien, mais je sais pas comment marche le fusil. Donc du coup j'ai dit bon, laisse tomber, on va se débrouiller, puis on est reparti avec Alban.
Et bon, comme visiblement René est encore là pour me raconter l'histoire, c'est que même son fusil, ça a été, voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois pour ramener des images, il y a des prises de risques dont on se rend pas compte quand on est confortablement assis dans nos fauteuils et qu'on regarde les belles images qu'on nous ramène. Voilà, donc c'était vraiment intéressant de pouvoir connaître un petit peu l'arrière des tournages. Ici, c'était pour Thalassa, mais aussi, on avait pas mal parlé du film Océan. Et j'avais adoré me replonger dans les making-of que j'ai beaucoup conseillé et que j'ai remis dans les pages de l'épisode parce que c'est juste trop génial. Je crois que ça m'intéresse encore plus les making-of que les documentaires ou les films en eux-mêmes. Donc voilà, je suis une grande fan de making-of. Donc j'espère qu'ici, je vous amène un peu dans les making-of de mon podcast. Il y a aussi des invités qui ont l'art de vous surprendre. C'était le cas avec Louis-Philippe Lonck, Loufi pour les intimes, qui m'avait bien surpris en m'expliquant cette scène de rencontre avec les dromadaires dans le désert en Australie. Des petites bêtes qui n'ont pas l'air si agressives que ça, mais qui apparemment peuvent être assez dangereuses. Donc, il vous en dit plus dans l'épisode, mais ici, je voulais juste vous sortir cet extrait qui m'avait vraiment surprise et bien fait rire aussi.
Ils étaient en face de moi, ils me regardaient, et puis c'était... Et tous à 3 ou 4 à faire des bruits comme ça, tu dis... Ok, il y a une horde de zombies déguisés en dromadaires devant moi.
Voilà, Louis-Philippe est connu pour être un petit comique, mais vous voyez, c'est pas usurpé. C'est vraiment un aventurier incroyable et ses exploits sont complètement méconnus, je comprends pas. Parce qu'il fait, c'est absolument fou, mais effectivement, il a l'art de ne pas se prendre au sérieux du tout, ce qui fait tout son charme. Voilà, je n'ai pas de bêtisier ou je ne vais pas vous faire des extraits pour absolument tous les épisodes. Mais c'est vrai que j'ai... Voilà, il y a Benjamin de Molien qui m'avait beaucoup touchée par sa sincérité quand il parlait du fait qu'effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais de la joie qu'il trouvait à être dans l'action, même si être dans l'action, essayer de faire changer les mentalités pour amener plus d'écologie dans la vie des gens, c'était pas toujours facile. J'ai beaucoup aimé dans cette thématique-là aussi l'interview avec Nicolas Blanc, de Reforestation qui m'a fait vraiment passer le message que oui, les challenges climatiques étaient énormes, mais être dans l'action, ça rend heureux. Il y a un épisode qui a énormément compté pour moi, c'est celui de Valentin et Théophile, donc ce binôme handivalide qui fait de l'Ironman. Alors eux, leur message, c'est ce qu'ils font, donc ce n'est pas un message oral, on va dire, mais c'est un message qu'ils font passer avec leur action, c'est-à-dire, voilà, voir Valentin qui fait un Ironman, enfin moi déjà, je ne serais jamais capable d'en faire un, ça c'est certain, mais lui donc, ce qui était intéressant aussi, c'est que Valentin qui en est arrivé à faire ça, en plus en tirant et poussant son frère, eh bien il disait qu'au début, il n'était pas du tout sportif. Et puis il a commencé à courir avec son frère parce qu'il avait envie de partager des moments, parce qu'il avait l'impression de rater sa fraternité avec ce frère avec qui le contact, évidemment, n'est pas aussi facile qu'avec une personne valide. Et donc, il avait envie de partager des moments privilégiés avec lui. Et il avait trouvé ce moyen-là, le sport, que Théophile avait vraiment l'air d'apprécier. Et donc, c'est Théophile qui n'en avait jamais assez, qui voulait toujours plus, visiblement. Il le montrait, pas par des mots, parce que Théophile ne sait pas parler, mais par ses attitudes. Ça a tellement, du coup, interpellé Valentin que ça l'a stimulé et que Valentin a toujours été plus loin. Et puis, ça a été un triathlon, puis ça a carrément été un Ironman, où le défi, évidemment, n'est pas de faire un podium, mais d'arriver dans les temps. Et il y a des photos absolument superbes hein, que j'ai été heureuse de relayer sur la page Facebook, sur mon site web, hein, parce qu'on voit cet amour fraternel et cet autre visage du handicap. Et pour moi, ça compte énormément, puisque j'ai eu moi-même la chance, et je dis bien la chance, d'avoir une grande sœur handicapée qui fait qu'à tout jamais vous avez une vision différente de la vie et de ce qui est important. Et voilà, du coup, cette rencontre, ben, j'ai voulu la faire en présentiel, donc j'étais super bien reçue à Paris, à Fontainebleau plus exactement, chez eux. J'étais super contente de faire connaissance avec la famille. On a bien rigolé aussi, et donc c'était un très 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 bon moment. De qui est-ce que j'ai pas parlé encore? Ah, j'ai vraiment peur d'avoir oublié des invités. Mais je vais terminer avec Odette Caffry, donc qui est lui, qui est batteur. Et donc moi, je l'ai découvert quand il était en train de faire de la batterie en extérieur dans ma ville à Namur. Et il avait tellement quelque chose que ça m'a donné envie de l'interviewer. Et ça fait un interview génial parce qu'il a plein de choses à dire. Il est israélien, il a habité en Angleterre, il a beaucoup bourlingué en Afrique, s'est installé en Allemagne. Donc pour un juif israélien, c'est assez intéressant comme parcours. Et puis bon, j'ai eu droit à un petit concert pour moi toute seule. Donc puisque voilà, j'ai la vidéo, il faut encore que je la mette sur les réseaux ou sur la page de l'épisode. Mais voilà, moi je suis toute seule, j'ai pas le temps de tout faire. Donc j'espère mettre les vidéos que j'ai tournées des interviews un jour en ligne. Et puis ben là, je vais vous montrer ce que ça donne quand on a un petit extrait comme ça, rien que pour soi. C'est trop génial. Et puis on terminera aussi par un beau message d'Odette. Je trouve ça peut être chouette pour terminer cet épisode à moitié best-of, à moitié bêtisier, et que j'espère vous aura plu.
Tu voudras que je joue maintenant? Oui, ok. On va faire. Je vais mettre. Ouais. J'attends. Donc on a parlé d'Afrique, alors. Je voudrais dire, tu as dit que le but de ton podcast, c'est peut-être de faire, transmettre aux gens qui ont une passion, mais qui ont peut-être doute ou peur d'y aller jusqu'au fond. Alors moi, mon parcours, il est par rapport à ça, et c'est, j'ai arrosé cette passion sans arrêt, et il n'y a pas d'autre choix. Moi vraiment, j'étais toujours un peu enfant gâté, genre, oh, pourquoi je ne suis pas si doué que ça, que je peux déjà jouer la batterie superbement, tu vois? Eh ben non. En fait, c'est le grand don. C'est qui tu veux faire quelque chose et qui tu dois travailler pour ça. Ça, c'est le don qui va te rendre un artiste. Au fur et à mesure que tu travailles sur ce que tu aimes, c'est que tu découvres et que tu as quelque chose à dire. Parce que si tu étais né natural born et tu chantes tellement merveilleux, tu joues tellement merveilleux, tu comprends même pas ce que tu as dans les mains. Tu comprends même pas ces dons. Et souvent, ces gens-là, ils sont en train d'abîmer leur talent. Ou bien ils vont pas jusqu'au bout. Tu vois? Tu sais, parfois je regarde, ça fait 12 ans que j'ai parti d'Israël. Parfois je regarde, je dis, waouh, j'ai tellement ramé Londres, Angleterre. Et l'Allemagne, la froideur, je joue dans la rue, j'ai des problèmes avec des flics, parfois des quoi que ça. Mais j'ai dit, mais regarde les expériences, les concerts que tu as fait, les rencontres que tu as fait. Jamais je les changerai. Donc ça vaut le coup.
Ouais, super. Ouais, j'adore ce que tu dis, vraiment. C'est vrai que c'est ça qui m'épate aussi dans ton parcours, c'est que
C'est entre guillemets tombé plusieurs fois, mais tu t'es toujours relevé, tu as toujours cru en ton parcours, tu as toujours continué. Et après, looking back, en regardant, tu t'es toujours dit, bah, finalement, tout est bien comme ça.
Oui, et puis tu sais quoi, Anbe, je pense qu'en tant qu'être humain, on n'a pas vraiment la possibilité de se regarder nous-mêmes. On a besoin de l'autre, de projeter. Donc, quand on est en train de faire ce podcast-là, et que je vois toi et tes réactions, et ce que tu dis, et que j'entends moi-même et mon histoire, ça projette envers moi, et ça me donne une raison d'être, tu vois, plus. Donc, il ne faut pas oublier aussi que quand vous êtes dans le chemin, quand vous êtes dans le vraiment, vous apercevez pas tout ce qui se passe. Mm-hmm. Ouais. Il faut parfois accepter que c'est pas tout joli et tout est génial, mais qu'à la fin des choses, pas à la fin, il y a des choses, comme il y a des révélations, des moments où vous êtes totalement waouh,
ouais,
so happy.
Ça, c'est la magie. Voilà, et la magie continue en 2022. J'ai déjà quelques épisodes enregistrés que je dois encore monter pour vous les soumettre. Et j'espère que voilà, ce contenu-ci vous a plu, que les suivants vous plairont aussi, que vous aurez envie de soutenir le projet par les écoutes, pour continuer aussi le projet de reforestation qui est en toile de fond de tout ce que je fais, puisque j'aime bien joindre l'acte à la parole. Je crois beaucoup plus aux gens qui font qu'aux gens qui disent. J'espère que vous aussi, vous aurez trouvé plein de bonnes idées pour créer vos bonnes résolutions pour 2022, que vous aurez pu travailler votre mindset pour ce début d'année avec toutes ces idées inspirantes, ou que vous aurez en tout cas ri à certaines choses. Je vous présente évidemment tous mes meilleurs vœux pour 2022, plein de bonheur, plein d'aventures. Merci d'être là par vos écoutes. Merci à ceux qui sont là depuis le début de l'aventure. Merci à ceux qui nous ont rejoints. On continue en 2022 à travailler son état d'esprit avec des aventuriers et des champions, bien sûr. On continue à planter des arbres avec les oreilles, évidemment. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.